Alors maintenant, je suis avec Ostra. Ostra, qui êtes-vous?
Ostra, c'est un groupe de musique et un projet en solo. C'est assez interchangeable. Mon nom est Cathy, je suis originaire du Canada, je vis à Toronto, et cela fait maintenant environ 5 ou 6 ans que nous formons un groupe ensemble.
Future Politics est votre troisième album en studio. Le chiffre 3 est chargé en symbolique. Que pensez-vous du fait que celui-ci soit sorti le 20 janvier 2017, date de l'investiture du président américain Donald Trump?
C'était sans aucun doute une coïncidence intéressante. Je pense que ce n'était pas prévu. Et pourtant, je connais de nombreux groupes qui devaient sortir leur album à cette date et ont finalement changé. Mais nous avons décidé que finalement, ça prenait tout son sens par rapport au thème de notre disque, de le sortir à cette date. Mais oui, ça a sans aucun doute changé la signification première de l'album et ce qu'il signifiait pour les gens.
Votre album vise, je cite, un monde sans frontières où la compassion et la curiosité suscitent l'innovation technologique plus que le profit, où la nécessité du travail est remplacée par du temps dédié à la créativité et au développement personnel, où la terreur et la destruction forgées par le colonialisme et la suprématie blanche sont considérées comme l'âge sombre de l'histoire de l'humanité. Vous avez vécu ou vous voyagez entre les États-Unis, le Mexique et bien sûr le Canada, dont vous êtes originaire. Quel est votre ressenti face à ces trois discours presque opposés sur les frontières, les femmes ou encore la communauté LGBT queer?
Oui, travailler entre les États-Unis, le Mexique et le Canada fut très intéressant. Le plus intéressant, je pense, ce fut d'aller au Mexique et y vivre, car c'était la première fois que je vivais en dehors d'empires impérialistes que sont les États-Unis et le Canada. Donc c'était vraiment une sorte de processus d'apprentissage, de voir le point de vue externe qu'avaient les gens sur ces pays et comment ça les affectait. Donc j'ai vraiment beaucoup appris de la façon dont l'impérialisme les affectait pendant mon séjour au Mexique. Vous savez, les gens pensent que le Canada est cet endroit heureux et progressif. Je veux dire, c'est peut-être vrai d'une certaine manière, mais en fin de compte, c'est un pays construit sur un génocide, malheureusement. C'est un fait avec lequel les Canadiens ont du mal et c'est évidemment loin d'être aussi affreux que le génocide des États-Unis, c'est certain, si on les compare. Les États-Unis font que le Canada ressemble à un pays progressif et socialiste, mais la vérité en est bien loin.
Le titre Utopia fait référence à l'ouvrage de Thomas More, paru en 1516. Dans le clip, on voit apparaître une femme drapée de rouge. C'est vous, Cathy Stelmanis, qui êtes de dos face à une représentation des éléments, la terre, la mer et le ciel. Un peu comme un tableau du peintre romantique Friedrich. Vous semblez seul face à la nature. D'ailleurs, un de vos titres porte le nom de Gaïa. Est-ce une invitation ou une mise en garde aux spectateurs pour considérer sérieusement notre impact écologique induit par nos modes de vie?
Oui, je pense qu'il y a en effet des thèmes qui connectent les chansons Gaïa et Utopia. Pour moi, la femme en rouge représente une sorte de super-héros du futur, envoyé pour nous montrer le bon chemin à prendre. Mais je pense qu'à ce moment, oui, c'est plutôt par rapport aux relations qu'entretiennent la ville et la nature. Et je suis en réalité une très grande fan des grandes villes, j'adore être en ville, mais je pense simplement que pour moi, les villes sont en train d'être détruites parce qu'elles deviennent si impersonnelles. Forcément, lorsque tu vis avec 5 millions d'autres personnes sur 10 km carrés, on ne devrait pas se sentir impersonnel. On ne devrait pas se sentir seul, il devrait y avoir plus d'opportunités d'interagir avec d'autres humains. Et cela devient de plus en plus difficile dans les villes. Parce que de grandes entreprises en ont pris le pouvoir. Et oui, je pense que ces importantes connexions que l'on devrait être capable de créer dans les villes sont similaires avec celles que l'on devrait entretenir avec la nature.
Revenons à un sujet qui nous est tout aussi cher, les femmes. Canadienne, on peut penser de prime abord que cette femme rouge évoque un personnage de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Qu'en est-il? Et quel est votre rapport avec ce personnage?
En effet, je suis une fan incontestable de Margaret Atwood et La Servante écarlate fut longtemps mon livre préféré jusqu'à très récemment. À l'origine, ce n'était pas vraiment voulu de la faire ressembler à un personnage de Margaret Atwood. Mais au moment de la séance photo, nous étions tous ahuris. Oh mon Dieu, ça ressemble à La Servante écarlate. On était très inspirés ce jour-là. Donc j'ai sans aucun doute apprécié la référence au personnage et j'ai senti que c'était important dans la signification. C'est amusant comme je n'arrête pas d'entendre parler de ce livre en ce moment, alors que pendant 15 ans, c'était le silence radio. Je suppose que c'est à cause de la série qu'ils viennent de sortir dessus. Mais c'est également très pertinent vu le climat politique dans lequel nous nous trouvons actuellement.
dans I Love You More Than You Love Yourself, vous incarnez Lisa Nowak. Femme astronaute accomplie en 2006, elle est arrêtée en 2007 pour avoir agressé une rivale amoureuse de son compagnon de vol. Tous deux voient leur carrière brisée. Il existe une forme de tabou autour de la maladie mentale, telle que la dépression notamment. Pourquoi avoir choisi cet exemple ?
Yeah, I mean that song, I Love You More Than You Love Yourself, is written about loving somebody with depression. And, you know,
oui, cette chanson, I Love You More Than You Love Yourself, parle d'aimer une personne qui souffre de dépression. Et tu sais, je suis persuadée qu'il n'y a pas assez de discussion autour de la maladie mentale et de la dépression. Tu comprends, la plupart des gens cherchent à se débarrasser de l'idée ou à garder leur distance. Et nous étions très intéressés par Lisa Nowak, parce que si tu googles son nom sur Internet, tu trouves toutes ces photos de son visage avec le mot « lunatique » écrit partout. Et je ne sens pas qu'elle ait reçu beaucoup de compassion pour sa situation. Tu te rends compte, elle est allée dans l'espace avant ses 30 ans. C'était un vrai génie, une scientifique de la NASA, une femme brillante. Et bien évidemment, elle a fait une sorte de dépression nerveuse et je pense simplement qu'au lieu de l'appeler lunatique et d'en faire des mèmes sur Internet, il y a des conversations bien plus intéressantes qui peuvent être faites à son sujet. Comme par exemple la pression d'être une scientifique de la NASA d'une vingtaine d'années et comment cela peut mener vers une certaine instabilité émotionnelle. Je pense simplement que si les gens étaient plus ouverts à ce sujet, alors ce genre de conséquences seraient moins fréquentes.
Est-ce aussi une thématique personnelle ?
Eh bien, j'ai écrit cette chanson, I Love You More Than You Love Yourself, en pensant à quelqu'un. C'est une chanson que j'ai écrite sur une personne qui souffre de dépression. Donc elle est sans doute extrêmement personnelle.
Est-ce que c'est comme une catharsis ?
Pour moi, c'est le plus cathartique de performer cette chanson live.
Pour moi, elle a un effet cathartique lorsque je la chante en direct. Quand je suis en live, je ne regarde habituellement pas le public lorsque je chante. Je regarde toujours un peu au loin, vers le mur entre autres. Je n'aime pas vraiment établir un contact visuel avec le public. Et au contraire, lorsque je chante cette chanson, je le fais. J'apprécie le moment parce que je m'imagine que chaque personne dans l'audience pourrait être remplie de ce côté triste et dépressif qu'elle garde secret. Et pour moi, c'est une façon incroyablement belle de voir les gens dans le monde. Je trouve que c'est devenu trop habituel pour nous de porter un jugement trop rapide sur les gens que l'on vient de rencontrer et de ne pas vraiment approcher les gens avec compassion. Dans un sens, je suppose que cette chanson me permet de le faire.
Est-ce que c'est une façon de recoudre son corps avec son âme ?
Maybe. I don't know. I guess
peut-être. Je ne sais pas. Je crois en effet que j'utilise le mot soul dans mes chansons. Donc je vais répondre oui.
La transition entre Montréal au Canada et le Mexique semble déterminante pour votre troisième album, Future Politics. Comment l'expliquez-vous ?
For me, living in those three places was very different. Like when I was first writing in Montreal,
pour moi, vivre dans ces trois endroits furent des expériences très différentes. Quand j'étais à Montréal pour la première fois, c'était en hiver, il faisait moins de 0 degré dehors, il y avait très peu de soleil, et je vivais assez loin du centre, donc j'étais seule la plupart du temps. Donc j'étais très isolée, et je me sentais assez seule. Je pense que la plupart des chansons que j'ai écrites pendant cette période sont les plus sombres. Et ensuite j'ai réalisé que je n'avais aucune raison d'être à Montréal, puisque je ne faisais qu'écrire. Je pouvais ainsi le faire n'importe où. Donc j'ai acheté un aller simple pour la ville de Mexico. Et juste au niveau sensoriel, être dans un endroit plein de couleurs et chaud avec tellement d'activités, ce sont tous les jours tant de sources d'inspiration. Cela fut très important pour moi de retrouver cette énergie d'écrire.
Est-ce que vous vous êtes réchauffé, entre guillemets, ou nourri de l'énergie mexicaine, des couleurs ? Je vois que vous avez également travaillé avec une photographe qui est mexicaine, je crois.
Oui, j'ai sans aucun doute été influencé par le visuel. J'adore comme le Mexique utilise les couleurs dans tout. Tous les bâtiments ne sont pas en bleu, rose, jaune et orange. Alors qu'en Amérique du Nord, tout est gris, gris et marron. Et donc oui, j'adore ces couleurs. Et pour moi, ces couleurs représentent la sorte de vitalité que j'ai trouvée là-bas. Je me suis retrouvée, je l'ai senti. Et oui, je pense que ces chansons se devaient d'être représentées par la couleur, à cause du cas de figure dans lequel elles ont été écrites et la forme d'énergie qu'elles renferment.
Si vous deviez conseiller quelques ouvrages aux auditeurs, auxquels pensez-vous et pourquoi ?
Eh
bien, comme je l'ai dit précédemment, mon livre préféré se trouvait être La Servante Écarlate pendant longtemps, mais a récemment été détrôné par Woman on the Edge of Time par Marge Piercy, un livre de science-fiction féministe des années 70. C'est un autre de ces livres qui est encore plus pertinent maintenant qu'à l'époque où il a été écrit. Il a des thèmes similaires à La Servante écarlate, mais a été réalisé très différemment. Ce livre m'a littéralement fait tomber à la renverse. Donc je le recommande sans aucun doute. Et si tu préfères les trucs un peu plus geek, si tu peux vraiment faire plus geek que la science-fiction, alors j'ai également beaucoup apprécié ce livre, Inventing the Future, Post-Capitalism and a World Without Work. Ça donne l'impression d'être ennuyant et un genre de texte économique, mais c'est écrit tellement bien que cela devient très facile à lire. Il est très subversif et partage ses idées quelque peu révolutionnaires qui sont très intéressantes lorsqu'on y pense. Elles te font réfléchir à la façon dont nous vivons et à la façon dont nous percevons l'autre et la société. Ils imaginent cette sorte de société parallèle qui est très différente de celle dans laquelle on est actuellement. Et tout cela m'excite beaucoup.
Que vous apporte la science-fiction ?
I got into sci-fi really because I was so interested in the future.
Je me suis mise à lire de la science-fiction parce que j'étais très intéressée par le futur et ses possibilités. Pour moi, la science-fiction est tout aussi valide que ces textes économiques parce que ce sont des humains qui utilisent leur imagination pour imaginer quelque chose de différent. Si tu crées un monde complètement différent et mieux que celui dans lequel on vit, alors je pense que c'est extrêmement important de lire sur le sujet, d'apprendre et de s'en inspirer. Dans ce contexte, je pense donc que la science-fiction est extrêmement importante, encore plus à notre époque, vu comme c'est compliqué d'imaginer comment le monde pourrait aller mieux, étant donné le climat actuel. Mais pour moi, la science-fiction me permet de l'imaginer.
Est-ce qu'il est trop tard pour changer, selon vous ?
Je ne pense pas. Non, il n'est jamais trop tard pour changer. Je veux dire, même dans le livre de Margaret Atwood, la vie austère à laquelle la servante doit revenir, un genre d'années 70 gouvernée par une sorte de classe dirigeante complètement folle. Je veux dire que les choses peuvent évoluer à l'envers et faire un retour dans le passé, mais au bout du compte, on avance toujours.
Vous êtes venu plusieurs fois en France. Quel est votre lien avec le public français ou avec la scène française ?
Nous adorons jouer en France. La tournée que nous faisons en ce moment nous permet de faire 8 performances en France seulement et j'aurai l'occasion de jouer dans des endroits comme Amiens, un endroit où je ne suis jamais allée, mais oui, en effet, on a toujours fait de bonnes performances ici.
In France, I notice this a lot in like France and Spain. I feel like people are kind of like connecting with the ideas.
J'ai l'impression que les gens en France ou en Espagne, par exemple, sont plus connectés aux idées que fait ressortir l'album Future Politics. Peut-être un peu plus que dans d'autres pays, car j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce fort mouvement socialiste sous-jacent, et je trouve ça super cool.
Est-ce que vous avez visité un petit peu Amiens ou pas ?
Not yet, but I will.
Pas encore, mais j'aurai l'occasion de voir Amiens.
With pleasure.
Yeah. Thank you so much.
Thank you.
Okay. Merci beaucoup.